Voilà, donc nous allons entamer la dernière partie de la matinée, donc avec l'exposé de Guilhem Kos. Guilhem Kos est jésuite, il enseigne ici, donc à la faculté de philosophie du Centre Sèvres. Il a publié il y a un an, en 2014, « Le geste du pardon chez Kimé ». Hein, donc voilà le livre... le dernier livre ou le premier livre, je ne sais pas, que vous avez publié, mais il y en a peut-être d'autres que j'ignore. Voilà, donc je vous donne la parole sur la problématique du mal chez Paul Ricoeur.
Merci beaucoup Jean-Louis Schlegel pour votre invitation, pour l'organisation de ce colloque. Alors j'ai intitulé mon intervention « Mal et démythologisation » de Bultmann à Ricoeur. Et je commencerai par une citation de Paul Ricoeur dans La symbolique du mal en 1960. Le mal représente à la fois la plus considérable provocation à penser et l'invitation la plus sournoise à déraisonner. Face au mal, Ricoeur cherche à penser et à penser sans déraisonner. Et cette pensée sans déraisonner va passer par la convocation de tout ce dont il dispose, et en particulier les textes de la culture, par une lecture attentive des mythes, des textes, pour y déceler une manière de résister au mal et de le vaincre. Et on retrouve ce que disait Olivier Mongin tout à l'heure, cette conscience que la philosophie a des sources à disposition et qu'elle a à s'en saisir pour... Il cherchait une ressource. Mais quelques années auparavant, en 1941, Bultmann faisait lui aussi face au mal, sous cette figure particulièrement hideuse du nazisme. Et face à ce mal, il se posait en résistant par la prédication. Alors pour Bultmann, résister au mal passera par ce qu'il appellera la démythologisation de la prédication. Alors cette démythologisation, en un mot, c'est une dynamique de libération qui est présente déjà dans les textes bibliques et dont le cœur nucléaire sera reconnu à la fin dans un double événement et la prédication de ce double événement qui est la mort en croix et la résurrection du Christ. Alors dans un premier temps, je reviendrai sur ce texte de Bultmann pour montrer de quelle manière elle offre un point de résistance face au mal. Pour Ricoeur, qui publie ses travaux sur la symbolique et les mythes une vingtaine d'années plus tard, il insiste sur le fait que cette parole démythologisée doit s'accompagner d'une lecture des textes. Non seulement la Bible, mais il élargit à tous les grands récits fondateurs de nos cultures, en particulier ceux, comme l'a dit Michael Fessel, qui se posent la question de l'origine du mal. Cette lecture, il la voudra à la fois respectueuse de la dimension conceptuelle de toute réflexion, mais aussi de ce que j'appellerais, dans une sorte de réponse à Bultmann, une dynamique de remythologisation, qui sera seul capable de recueillir ces ressources en bonté de nos cultures. Nous tenterons de comprendre comment Ricoeur répond à ce moment-là à un mal protéiforme entre les résurgences sans cesse de l'hydre national-socialiste et ce renforcement de plus en plus du socialisme soviétique de l'autre. Et en conclusion, je proposerai quelques ouvertures face à la situation contemporaine. Alors, en première partie, donc, la démythologisation de Bultmann. Nous disposons du texte de Bultmann dans une nouvelle édition et traduction excellente grâce au travail de Jean-Marc Tétaz. Et ce texte date donc de 1941, le moment où le Troisième Reich est à son sommet. Ce texte s'intitule « Nouveau Testament et mythologie, le problème de la démythologisation de la prédication néo-testamentaire ». Sous ce titre un peu complexe se tient en réalité un texte de combat très clair, très fort, contre, au fond, toute prétention à résorber la réalité dans un discours totalisant. discours qu'il soit rationnel ou mythologique. À ce type de discours, il oppose justement un mouvement de démythologisation. Et ce mouvement est présent dans les Écritures, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, et le dernier pas qu'il reste à faire pour le prédicateur, c'est de l'actualiser, ce mouvement, dans sa prédication. Donc je vais reprendre un peu ce texte, et Bultmann procède en deux temps. Un premier temps où il présente cette démythologisation comme la tâche de la prédication, et le deuxième mouvement du texte, c'est la mise en œuvre, déjà, de cette tâche. Et au tout début du texte, Bultmann explique à quel problème, en réalité, cette démythologisation répond. Ce problème, c'est la perte de crédibilité de la prédication dans un temps où les sciences et les techniques forgent des esprits qui sont devenus résistants aux mythes. Or, la Bible et la prédication usent des mythes. Alors, je commente un peu cette position du problème pour lui donner un peu d'ampleur. D'emblée, pour Bultmann, la science se trouve prise comme une alliée dans la résistance à, en réalité, au discours national-socialiste. En effet, l'arme de ce discours nazi, c'est de brandir un pseudo-mythe, l'arien, en un mot, ce groupe d'hommes supérieurs où l'humanité culmine et qui est destinée à dominer le monde. Alors ce peuple doit présenter sa pureté, son esprit, en prenant soin d'éviter tous les mélanges, à commencer par les mélanges avec tous ces gens qui circulent et s'immiscent, ces flots qui seraient porteurs d'une impureté, source de dégénérescence. Alors, dès 1929, le cercle de Vienne a cherché à dénoncer ce discours et à s'armer contre lui, et ils dénonçaient en premier ce qu'ils ont appelé l'hypostase psychologique sociale de cet esprit d'un peuple, montrant comment le nazisme promeut un esprit, mais simplement pour viser les esprits des gens qui étaient meurtris à la fois par les humiliations de 1919 et la misère qui s'en est suivie, et fondre ces esprits dans, alors je reprends une expression de Gérard Rabinovitch dans La destructivité humaine, un béhémoth mafieux. Alors pour le cercle de Vienne, la meilleure arme contre ce type de discours, c'est un langage logique et analytique. Lui seul, ce langage logique et analytique permettrait de distinguer ce qui est connaissable et ce qui ne l'est pas, et de dénoncer le caractère mensonger de ce type de discours. Malheureusement, en 1936, le chef de file de ce groupe, Maurice Schildt, a été assassiné, et le groupe s'est dispersé, notamment un certain nombre sont partis aux États-Unis. Alors, dès le début du texte, Bultmann s'allie avec cette ligne sans se confondre avec elle. La tâche qu'il se fixe est de rendre la prédication biblique recevable dans une culture dont il valide finalement la dimension scientifique et technique. Parce qu'en réalité, cette dimension scientifique et technique aussi est une arme contre le discours nazi. Alors comment va-t-il procéder ? Alors d'abord, il écarte immédiatement la solution qui consisterait à vouloir choisir dans les écritures bibliques, ce qui serait le plus cohérent. Les textes sont tels qu'ils sont dans la Bible, cohérents. Ils ont leur propre cohérence et c'est cette cohérence qu'il s'agit de mettre à jour. Et la clé d'interprétation, c'est que les mythes bibliques sont d'abord la médiation de la compréhension existentielle de soi de l'homme. Les mythes bibliques ne sont pas d'abord une compréhension du monde, mais une médiation pour que l'homme se comprenne et se comprenne dans le monde dans lequel il vit. Alors, les mythes bibliques expriment au fond une croyance qui est que l'homme n'est pas maître de soi et que son fondement est hors de soi et du monde. Ça, c'est le fondement de la croyance portée par les mythes bibliques. L'homme n'est pas maître de soi et son fondement est hors de soi et du monde. Comment les mythes procèdent pour réaliser cette médiation d'une compréhension de soi comme n'étant pas maître de soi? Ils procèdent par une série de représentations symboliques, d'images, une mise en série d'images qui, sans être des abstractions, peuvent être prises, si on les prend une à une, comme donnant l'impression au monde qu'il domine le monde. C'est le processus de mondanisation. Je domine le monde, je le comprends dans une image et je m'en rends maître. Alors la Bible renverse l'homme de ce trône de puissance destructrice en juxtaposant des représentations diverses, parfois contradictoires, en créant à travers cette suite d'images une dynamique. Et c'est une dynamique mythologique, puisqu'elle utilise des mythes, mais de démythologisation, puisqu'elle vise petit à petit à faire sortir l'homme de sa prétention par des images à dominer. Et finalement, à le disposer à accueillir ceux qui le fondent et, en réalité, qui le libèrent aussi de cette prétention. Au final, elle renverse autant la prétention à se libérer soi-même qu'à prétendre libérer les autres. Comment cette œuvre de démythologisation de la prédication peut être mise en œuvre à partir de ce qu'on voit du processus biblique? Pour Bultmann, le monde biblique, c'est celui du péché. Alors, le péché, c'est-à-dire, dans ce cas-là, la rupture d'une alliance entre Dieu et son peuple. Mais c'est aussi le monde de la responsabilité de l'homme, c'est-à-dire l'homme qui est seul coupable de cette rupture, mais à qui il revient de répondre à un appel de Dieu qui ne cesse de lui reproposer sans arrêt de renouer l'alliance. Ce que le mythe va faire à travers cette série d'images, c'est d'exposer la distance entre l'existence déchue d'un homme qui a rompu l'alliance et l'authenticité de l'humanité telle qu'elle était voulue par le Dieu de l'Alliance et telle qu'elle est offerte sans arrêt. Le mythe dit aussi quelque chose de très important, c'est qu'il ne suffit pas de savoir ce que l'on est authentiquement pour pouvoir l'être. Penser que savoir suffit, c'est se construire une idole et se prosterner devant elle. La vie de foi authentique, pour Bultmann, c'est renoncer aux idoles. Et renoncer aux idoles, c'est au fond et radicalement renoncer au salut par le savoir, par la connaissance du monde, la connaissance de soi, même si c'est le soi authentique, et la connaissance de Dieu, même si c'est le vrai Dieu. Ce savoir-là ne suffit pas. C'est ce que Bultmann appelle la démondanisation. Démondanisation, c'est une distance qui est prise par rapport au connu, ou à ce qu'on prétend connaître, ou même à ce qu'on connaît. C'est une mise en mouvement d'exode, sortir sans arrêt de ce que je connais. Le mouvement fait rentrer dans une existence dynamique. Alors, Bultmann, Ricoeur, d'autres reprennent cette tension entre quelque chose qui est déjà là, ce qui est déjà là, c'est cette proposition de nouvelle alliance, et ce qui n'est pas encore, c'est l'accomplissement complet de cette alliance qui passe par une action. Cette tension, au fond, porte à tout instant l'exigence d'écouter une parole qui reste vivante. Si on renverse les choses, on voit que le salut n'est ni seulement à venir, ce qui aurait pour conséquence de rejeter complètement ce monde comme dans la déchéance et la mort, puisque ce qui est bon n'est qu'à venir, ni pleinement réalisé dans un peuple, ce qui signifierait qu'au moins pour ce peuple ou ce groupe de personnes, l'histoire est terminée. Alors jusqu'à maintenant, Bultmann a insisté sur le côté du renoncement, le côté décapant de la prédication face à la tentation de totalisation qui existe dans l'homme. Mais la prédication cherche aussi à témoigner positivement d'une foi, de la confiance en un Dieu qui sauve l'homme de cette situation Et ce qui sauve l'homme radicalement, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Toute la difficulté va tenir à la forme de cette ultime prédication. Parce que dans cette ultime prédication s'accomplit la dernière démythologisation, la sortie complète de l'homme de cette prétention, mais en même temps, elle est encore sous une forme mythologique. La tentation que dénonce Bultmann, et c'est certainement la pointe du texte, serait de croire que l'on peut aboutir à une expression rationnelle du salut, complètement démythologisée. Alors, il dit, Dilthé, Heidegger et d'autres se sont laissés tenter par cette possibilité. Tous s'accordent sur le fait que l'homme est dans une situation de déchéance, qu'il s'est perdu, mais il suppose qu'il suffit de présenter à l'homme la vérité de ce qu'il est pour que cet homme puisse s'en saisir et redevienne l'homme authentique qu'il a vocation à être. Dans ce présupposé, l'homme est dominé en réalité par la confiance en soi, qui est le principal obstacle à sa libération. Alors, Bultmann a des mots très forts. Il dit que Heidegger, en faisant ça, est sacrilège. Il est sacrilège d'affirmer le pouvoir de l'homme de se sauver lui-même. Il en déduit que le péché, au fond, c'est l'ingratitude. L'ingratitude à l'égard de l'origine de cette existence, que l'homme ne s'est pas donnée, mais qu'il reçoit, et l'orgueil de prétendre faire sa vie, d'avoir un droit à la vie. Le pardon n'est pas d'abord compris comme une remise de peine, mais comme une conversion, toujours à reprendre de l'ingratitude à la gratitude et de l'orgueil à l'humilité. Alors pour annoncer cette conversion, cette dynamique sans arrêt de sortie de l'orgueil, la dynamique biblique culmine dans ce double événement de la croix et de la résurrection. Alors si on cherche à en donner un sens, la croix, c'est la condamnation du péché, de cette rupture d'alliance, et la résurrection, c'est le pardon pour cette rupture. Alors je cite Bultmann, « Avec la mort du Christ jugeant et libérant le monde, est aussi institué par Dieu le ministère de la réconciliation, la parole de la réconciliation. » Il cite 2 Corinthiens 5. « C'est donc cette parole qui vient s'ajouter à la croix et la rend compréhensible comme le processus du salut en exigeant la foi par la question qu'il adresse à l'homme. » Donc, c'est une question qui est adressée à l'homme. « Veut-il se comprendre comme celui qui est crucifié et ressuscité avec le Christ ?» La prédication néo-testamentaire culmine dans cette question. Par la réponse qui va être donnée, qui appartient à chacun de ceux qui entendent, conclut Bultmann, la communauté va se constituer et pourra demeurer comme communauté capable de résister aux forces mauvaises qui la menacent d'éclatement, à commencer par cette prétention à dominer. La dynamique mythologique de démythologisation culmine dans cette parole et un silence qui attend un oui qui n'est qu'espéré. Ce oui va échapper pour Bultmann radicalement au langage. Il échappe au mythe comme au concept, dans la mesure où ce qui est proposé à l'acquiescement, ce n'est plus un état, des dogmes ou des règles d'action, c'est cette participation à la fois personnelle et communautaire à ce double événement qui est l'événement du passage que saint Paul reprend dans l'hymne à l'amour, le passage de l'amour qui est capable de traverser toutes les épreuves et de sortir victorieux. Donc cette dynamique, en réalité, est à accueillir par la communauté dans un oui, un acquiescement, qui va faire qu'elle va résister à ces forces d'éclatement. Alors, je vais passer maintenant à la manière dont Ricoeur comprend, reprend et transforme cette proposition. Parce que cette radicalité, tout chrétien peut certainement s'y reconnaître et tirer grand profit à se l'entendre annoncer toujours et encore. Cependant, ceux qui ne sont pas chrétiens auront peut-être de la peine à l'entendre et en comprendre le sens. Alors j'évoque aussi la critique que Ricoeur formule lui-même dans l'introduction, la préface à l'édition du texte en 1967. Il dit, dans ce texte, il manque aussi une réflexion sur le langage qui permettrait, dans la lecture des textes, de garder à la raison, à l'explication par la raison, toute sa place jusqu'au bout, et de donner aussi à ce oui final, non plus le sens de ce qu'il appelle une coïncidence émotionnelle pure avec ce double événement, mais d'un acquiescement éclairé. Et pour Ricoeur, loin d'émousser la radicalité de l'appel et la force de résistance qu'elle donne, ce détour par la raison et par les textes vise au contraire à les renforcer et à les universaliser. Dans Finitude et culpabilité, qui est le deuxième volume qui est paru en 1960 de la philosophie de la volonté, Ricoeur reprenait la question de cet homme confronté à sa déchéance et interpellé par les mythes. Alors nous pouvons repenser aussi au contexte 1960, on y a déjà fait allusion, et on peut dire que la résistance est de nouveau à l'ordre du jour. Alors, elle est à l'ordre du jour contre l'exercice du mythologique toujours possible, ou du pseudo-mythologique toujours possible, mais aussi contre ceux d'un conceptualisme qui prétend expliquer la réalité et œuvre à faire plier ses parts récalcitrantes. Alors, je cite Ricoeur, « Mon hypothèse de travail, c'est que la critique du pseudo-rationnel est fatale, non pas au mythe, mais à la gnose. C'est dans la gnose que se réalise le simulacre de la raison. » Il va opérer alors un double mouvement de conceptualisation et de démythologisation en reprenant le mouvement de Bultmann, cela face à des lecteurs naïfs des mythes, et aussi montrer les limites de la conceptualisation par un phénomène de remythologisation pour faire face à la tentation gnostique. Alors la conceptualisation tout d'abord, elle a chez Ricoeur une large place, simplement pour reprendre Finitude et culpabilité, dans la première partie, l'homme faillible, qui est une anthropologie, qui prend le relais de tout son travail phénoménologique sur la volonté. L'homme qu'il décrit est structuré comme une liberté fragile. Et cette liberté fragile, c'est ce qui rend la faute possible. Mais elle n'explique pas le saut entre cette possibilité et cette effectivité, entre la faillibilité de l'homme et sa culpabilité. Le travail de conceptualisation va s'accomplir dans l'exposition de cette fragilité où est distinguée à la fois la faillibilité et la culpabilité. Et elle aboutit sur une aporie. Elle ne peut pas aller plus loin, elle ne peut pas franchir l'écart entre faillibilité et culpabilité. Elle ne peut pas expliquer. Donc, la rationalisation, la conceptualisation aboutit toujours sur une question, sur une ouverture qui appelle une relève. Et on va trouver ce phénomène jusqu'à la fin de l'œuvre de Ricoeur. Après la question du mal, ce sera celle du temps. Mais toujours, la conceptualité aboutit à une question, une ouverture, et appelle une relève. Et ensuite, la relève réappellera la conceptualisation. Dans la symbolique du mal, donc qui fait suite à l'homme faillible, Ricoeur va proposer une première élaboration de cette relève. Il va chercher une manière tout de même de rendre raison de l'expérience de la faute en partant, prenant acte de l'aporie de principe de la conceptualité. Le mal ne s'explique pas ni le pardon. Alors, si le pardon est une sorte de victoire sur le mal, cela reviendrait à réduire le pardon à une explication, et au fond, ce que Ricoeur dénonce plus radicalement, ça supposerait une anthropologie de l'homme sans faille. Un homme sans faille qui est une illusion extrêmement dangereuse. L'expérience de la faute ne se donne pas immédiatement dans un concept, mais pour Ricoeur, médiatement par les mythes et les symboles. Et il est possible de reprendre ce processus par un travail herméneutique vers ce que Michael Fessel a expliqué tout à l'heure, pour aboutir à une quasi-conceptualité. Alors si je suis ce mouvement d'un peu plus près, qu'il dégage dans son travail, par son travail herméneutique sur les mythes, donc il va commencer par élaborer une symbolique cosmique, qui fait appel à une représentation du cosmos, qui met face à face une vision du mal comme souillure et de la sortie du mal comme purification. Et puis, il montre comment la dynamique nous conduit vers une vision plus intériorisée du mal comme à la fois historique et communautaire à travers la figure du peuple hébreu pour aboutir dans un phénomène encore d'intériorisation vers une figure du mal intériorisée par la conscience sous la forme du péché et de sa libération. Sous la forme de la culpabilité et de la justification. Péché et libération étant la figure historique et communautaire. Cette symbolique, qu'il appelait symbolique du mal, mais vous voyez bien qu'elle est deux faces, on pourrait dire symbolique du mal et du pardon, il la met ensuite à l'épreuve de la diversité des mythes dont il l'a déduite. Et à travers cette mise à l'épreuve de cette symbolique, à la lecture des mythes, va arriver donc à ce quasi-concept de serf-arbitre qui va conjoindre sans les confondre ce déjà-là d'une liberté partiellement retrouvée dans l'aveu de la faute et le pas encore d'une liberté pleinement, même si seulement, humaine, dans l'attente d'un pardon qui ne peut être que donné par d'autres. Ce mouvement dessine clairement une dynamique de démythologisation à travers ce processus d'intériorisation, aussi de rationalisation, de symbolisation vers le quasi-concept. Et donc, c'est dans ce processus-là, mal et pardon sont de moins en moins compris comme exclusivement extérieurs, comme relevant des objets du monde et des réalités sociales ou historiques, mais de plus en plus intérieurs, comme relevant de soi et du plus intime en soi. Dans cette intériorisation, cependant, le cosmos et l'histoire ne sont pas du tout évacués, ils sont intériorisés dans un processus d'élargissement et d'approfondissement de la conscience, et qui est fondamentalement un processus d'ouverture de la conscience. De même, le processus de conceptualisation qui l'accompagne ne signifie pas du tout l'évacuation du symbolique, mais au contraire, sa reprise dans ce qu'il appelle la chair du langage. Mais même si le symbole a la capacité de faire signe vers une présence, cette présence qui donne l'espérance et dont le concept donne l'idée, même si le langage plein met dans une présence suffisante pour recevoir la force et les mots de l'aveu et l'espérance du pardon, même si le lieu de cette présence est désigné, au plus intime de chacun, le langage ne peut pas donner pleinement ce qu'il annonce. Le langage reste ouvert. Le langage reste ouvert d'abord parce qu'au fondement de la communauté langagière, il y a la confiance en l'autre comme en soi. Les mythes, le processus des mythes, la dynamique des mythes, fondent cette conscience quand ils sont lus dans une promesse tenue malgré les destructions et les trahisons. Dans la foi en une humanité capable, on retrouve l'homme capable, malgré tout, de réentendre et d'honorer la promesse de pouvoir vivre ensemble heureux. Le pari de Ricoeur, c'est qu'il est possible de rendre raison de cette promesse qui est annoncée par les mythes suffisamment pour que chaque homme la comprenne et l'entende de l'intérieur de sa propre tradition et aussi comme provenant dans le plus profond, du plus profond des autres traditions. Ce qu'il cherche à élaborer, c'est un discours sans prétendre tout recouvrir à une vocation universelle, dans le sens d'écouter. Un discours qui est enraciné à chaque fois dans une communauté linguistique et culturelle, tout en étant au fond ouverte au langage et aux cultures voisines, et il a cette très belle image de proche en proche, ouverte jusqu'au plus lointain, et il parle à ce moment-là des textes et sagesses de l'Inde et de la Chine. En même temps, il combat un mouvement de déculturation, où, pour le reprendre en quelques mots, peut se conjuguer à la fois l'indifférenciation froide d'un langage scientifique et technique, quand il se prétend ultime, et le pur émotif d'un discours où se fusionnent le rationnel et le mythique. Ce que les grands récits portent, parmi lesquels sont les récits fondateurs des religions, c'est cette profonde vérité que Ricoeur formule à la fin de « Finitude et culpabilité ». L'homme est autant coupable que victime d'un mystère d'iniquité qui le rend digne de pitié autant que de colère. Et l'on retrouve une tension fondamentale qu'il va développer dans Temps et Récits. Le temps est vécu comme destructeur et découvert comme non moins créateur par la médiation de l'œuvre littéraire, en l'occurrence la recherche du temps perdu de Proust. Et c'est une tension qui ne va cesser de décliner dans différentes polarités, polarité du temps, polarité du langage, et finalement polarité de l'identité, un caractère et promesse. Alors jusqu'ici, Ricoeur avait travaillé dans la résistance face au mal, découvrant un recours dans la démythologisation sur fond de cette constitution, de ce qu'il appelait un cercle entre concept et symbole. Et désormais, voilà, j'évoque cette ouverture en quelques mots, il va chercher à fonder la résistance à la destructivité du mal dans un recours à la créativité d'un bien plus originel. Alors, en faisant ça, il va dépasser vraiment le projet de Bultmann, ce « oui » que Bultmann laissait entendre et espérer. Ricoeur cherche à l'écouter déjà présent dans l'épaisseur des cultures. Dans la métaphore vive étant un récit, on peut les lire en fait comme des travaux philosophiques sur le renouvellement du langage, renouvellement de l'action, un renouvellement qui s'opère par la médiation des textes. Alors les textes qui sont maintenant élargis aux poèmes, aux récits narratifs, et on retrouve ce qu'Olivier Mongin signalait tout à l'heure, c'est on retrouve aussi la Bible dans la diversité de ces styles. Alors on pourrait citer aussi les travaux que Ricoeur avait lus, et puis il avait eu de longues discussions avec Paul Beauchamp, dans la lecture de la Bible, dans la diversité de ses récits et les différentes temporalités qui s'y expriment, qui culminaient dans ce qu'il appelait la forme apocalyptique. Alors il ne s'agit plus seulement de vivre un mouvement d'intériorisation et d'altération intérieure, mais aussi plus fondamentalement un mouvement d'expression et d'accueil d'une multiplicité irréductible d'altérité, des altérités, au fondement de nos existences. Alors je cite Ricoeur à la fin de « Soi-même comme un autre », ces altérités, c'est « autrui » ou « mes ancêtres » ou « Dieu »,« Dieu vivant »,« Dieu absent » ou « une place vide ». Alors la métaphore vive va reprendre et élargir ce cercle vers plus de dynamique. Je vais maintenant arriver directement à ma conclusion. Si Bultmann fait œuvre de théologien en ramenant les croyants chrétiens à la nudité radicale de leur foi, Ricoeur fait œuvre de philosophe en proposant à tout homme un chemin de résistance au mal et de coopération à la nouveauté qui fonde la confiance et la créativité, en convoquant dans ses écrits les diverses dimensions de la parole, concept et symbole, et de l'écrit, conceptuel, métaphorique et narratif. La visée qu'il promet, il va la formuler dans la 9e étude de Soi-même comme un autre, mais je crois qu'elle est vraiment présente dès le début, renouer toujours et encore avec le désir de vivre ensemble, dans notre riche diversité, malgré le mal, parce que c'est possible et que c'est le lieu du plus grand bonheur. Tenir dans ce désir, au moment où il est le plus menacé, suppose toujours et encore de se réenraciner dans le fond de bonté réconciliatrice qui nous constitue en humanité et qui nous est accessible par une multitude de voies, mythes, textes fondateurs de nos religions, de nos cultures. Et j'ajoute ce qui apparaît tardivement chez Ricoeur dans le parcours de la reconnaissance, et ce que je crois fondamental, c'est aussi la participation vive à toute une série de rites, de rituels religieux, culturels, publics, qui nous remettent dans cette culture. Alors, je conclus, si le mal qui guette, alors je fais référence aussi à une proposition d'Olivier Roy sur cette interprétation, qui guette une partie de la jeunesse, et nous tous par contre-coup, provient d'une sorte de désespérance nue, mais comme telle manipulable par les derniers, on pourrait parler de mafieux djihadistes, le remède n'est-il pas sur le fond ce processus de retrouver la culture promis par Ricoeur? En même temps, et je crois que ce n'est pas contradictoire, n'est-il pas dans ce que Bultmann tenait, c'est-à-dire dans la radicalité d'une parole qui à la fois tranche et guérit, ou plutôt à la radicalité d'une parole qui est manifestement en cohérence avec les actes de celui qui l'a dit? Alors je pense à cet événement tout récent du pape qui a, pour prêcher la réconciliation, a choisi une mosquée à Bangui. La source de ce qui renouvelle, qui fait que le mal n'est pas plus fort que l'amour, Ricoeur tenait beaucoup à l'équilibre de cette expression, qui est toute d'une espérance sans orgueil, n'est-elle pas encore là où nos cultures ont germé et continuent de se nourrir, qui sont les zones de frontières, les lieux de relégation, les pays meurtris par les guerres et les soubresauts aussi du climat, là où des enfants et des femmes et des hommes vivent en peuple malgré tout, debout, et continuent de manifester au monde, peut-être trop sourd à les entendre, l'espérance qu'il y a à continuer de vivre. En un mot, peut-être côtoyer, écouter, relayer, en parole et en acte, ce désir de vivre ensemble, enraciné et fondé dans peut-être ce qui, au fond, nous tient, c'est la joie que nous éprouvons à y vivre.
Merci. Alors voilà, on a bien 25 minutes. Je vais demander aux deux orateurs précédents de bien vouloir remonter à la tribune. Et donc vous pouvez poser des questions aux trois orateurs, à Guilhem pour commencer si vous voulez, ou aussi aux deux autres puisque le temps des questions a été très court. Voilà, il y a toujours un micro. Alors, toujours le bon conseil pour les questions, des questions relativement brèves et aussi des réponses pas trop longues. Voilà, qui veut poser une question ?
Non, ce n'est pas une question, mais puisqu'on est au centre Sèvres, puisqu'on parle de Ricoeur et au fond de la manière dont il peut nous aider encore à penser aujourd'hui. C'est vrai que moi, la question, parce que vous avez, Guillaume, a évoqué le pape, on a évoqué le père Beauchamp, qui est très très important pour Ricoeur. Il a un livre qui s'appelle « L'un et l'autre testament », qui est un livre tout à fait central. Donc ça pose un peu le problème, on est dans le religieux, parce que je sais, là, son fils est là, Ricoeur n'a pas une pensée protestante, on est bien d'accord, mais il y a une réflexion protestante de Ricoeur. En quoi ça croise un peu ou ça décroise des interrogations plus catholiques, je dirais ça pour vous, qui vous êtes intéressé à Bultmann. Parce que je crois que c'est une des questions aussi contemporaines, alors que le protestantisme à travers l'évangélisme pose des questions qu'on va évoquer cet après-midi qui sont assez lourdes, hein, en termes de fondamentalisme en tout cas.
C'est vrai que ce qui m'a toujours frappé chez Ricoeur, c'est son souci d'être attentif à une diversité de sources. Et qu'il soit protestant, peut-être n'est pas indifférent cette attention-là. Et bon, comme catholique, ça m'invite à cette même attention, à ce même respect de la diversité, tout en étant attentif, alors ça c'est vraiment la ligne de crête qu'il a, d'être toujours en recherche et de dénoncer en même temps les excès de part et d'autre. Alors, un excès qui nous guette, nous peut-être plus comme catholiques, c'est la tentation de cette vision plus totalisante. Mais on voit bien à travers des travaux comme ceux de Beauchamp, si on en revient vraiment au texte, on voit bien cette grande diversité qui se traduit par une dynamique qui au fond est une dynamique qui réouvre sans cesse, qui nous demande d'être dans cette écoute, dans la manière dont quelque chose est en train de naître et nous permet de continuer à espérer dans ce monde, sans naïveté cependant.
Voilà, Didier Sicard.
Oui, je voulais demander à Michel Fessel quelle réponse Ricoeur peut apporter à cette phrase dans les camps d'extermination nazie, « Hier nicht warum ». Ici, il n'y a pas de pourquoi. Est-ce que ni la théologie, ni la philosophie ne peuvent être convoquées? Est-ce qu'il y a un au-delà de la théologie, de la philosophie, pour éventuellement répondre à ce « Hier nicht warum » ?
Pour y répondre, je ne sais pas, pour le mettre en parole, pour le dire, pour l'exprimer, ça rejoint ce qui a aussi été évoqué par Guilhem Kos, c'est-à-dire que chez Ricoeur, il y a toujours une réflexion sur l'au-delà de même du récit, par exemple, si je pense aux conclusions de Temps et Récit, où justement, contrairement à ce qu'on pourrait d'ailleurs dire ou lui faire dire, il n'y a pas cette idée que le récit vient en lieu et place du discours spéculatif pour en quelque sorte englober le sens, et donc il laisse place à d'autres types de discours, la plainte, le lyrisme, l'élégie, le psaume, mais aussi d'ailleurs il cite à la fin de Temps et Récit les textes des pré-socratiques, hein, on retrouve ce qu'avait évoqué Olivier aussi, Jérusalem et Athènes, mais dans ce qui dans Jérusalem et dans Athènes est le moins justement redevable du principe de raison, puisque vous évoquez le ici il n'y a pas de raison de qui dans mon souvenir avait été la réponse d'un officier SS à Primo Levi. Donc il y a pas de réflexion à ma connaissance chez Ricoeur sur le principe de raison insuffisante ou le fait que il y ait une limitation de principe au pouvoir d'explication, mais en revanche il y a l'idée que un certain type de discours poétique mais non narratif, non ordonné au fond, enfin non disons configurateur de sens plutôt, peut prendre le relais, mais sur un mode évidemment non qui ne serait pas un mode explicatif ni un mode de rationnel, pour exprimer l'impossibilité de toute expression, pour dire l'impossibilité de toute rationalisation.
Oui. Non. Alors quelqu'un d'autre, oui. Alors vite.
On m'appelle Jules Kédé.
Un peu plus fort.
Un peu plus fort.
Ouais.
Pardon. La question se rattache un peu de façon transversale à toutes les interventions, et c'est un peu le silence, bon, sur le troisième maître du soupçon que j'essaie d'interroger maintenant pour voir un peu, et c'est Calmas, le troisième maître du soupçon, et dans la réponse de Ricoeur à la question de la foi et du mal, il me semble qu'il y a quelques tests qui nous éclairent et qui nous permettent de prendre position et en tenant compte des réponses à la question du mal qui s'inspire de la praxis actuellement. Parce que pour Ricoeur, en fait, la réponse au mal, ça peut être aussi dans l'action. Et dès le départ, on voit déjà dans les textes du début, donc histoire et vérité, on voit bien un travail qui est fait pour essayer de relativiser la réponse de la praxis, et tout en montrant ce qui est en germe là, comme réponse à la question du mal. Or, dans les interventions, on n'a pas directement cité cet aspect-là, ce qu'il a pu tirer de ce troisième maître de soupçon. C'est exprès ou bien ce sont les tests que vous avez sollicités qui sont un peu tacites là-dessus, ou j'aimerais un peu savoir.
Lequel veut répondre ou lequel voulez-vous faire répondre? Olivier? Oui. Là, on ne vous entend plus puisqu'il n'a pas le micro. Alors, non, mais ils vont répondre. Ils vont répondre.
Oui. Très rapidement, donc même dans un texte que j'ai lu, qui est donc extrait du texte du conflit des interprétations, apparaît le mot aliénation, bon, dont on peut penser qu'il a un effet ou un écho, pardon, marxiste. Par contre, le fait est que Ricoeur, mais pas seulement dans ses textes, ça quand même continuellement, enfin là aussi, bon, sauf exception, ne cite pas sur la religion Marx dans les maîtres du soupçon. Probablement parce qu'il pense que ça n'a pas, et il a raison, la critique de la religion par Marx, hein, spécifiquement, n'a pas l'envergure de celle de Freud ou de Nietzsche. Bon, l'opium du peuple, une fois qu'on est bon. Par contre, il y aurait certainement beaucoup à dire sur le lien, mais ça demanderait beaucoup plus de temps, entre la manière dont Ricoeur va plus tard, beaucoup plus tard d'ailleurs, réévaluer Marx à travers le concept d'idéologie et disons la réévaluation de l'imaginaire politique et social en rapport aussi avec l'imaginaire religieux. Ça, il y aurait certainement un travail à faire de ce côté-là que je n'ai pas fait, donc je ne vais pas en dire plus. Mais autant Marx est cité dans les maîtres du soupçon en général, autant... dans la question religieuse, sur la question religieuse, ou disons sur la question de l'athéisme même, Ricoeur ne lui a pas accordé une place très importante par rapport à Nietzsche et à Freud. Bon, tout simplement d'ailleurs parce que Marx lui-même considérait que la critique de la religion était déjà faite par Feuerbach. Là, ça renvoie à ce que disait Olivier.
Oui, juste un mot là. D'abord, c'est Feuerbach qui est mis en cause, et donc Marx... Parce qu'effectivement, le Feuerbach ne l'intéresse pas comme maître du soupçon pour des raisons qu'on a évoquées, que Bultmann... Ensuite, deux remarques en écho à ce que vient de dire Michael. La question de l'aliénation est extrêmement présente chez Ricoeur. Il y a aussi le grand texte de l'Encyclopédia Universalis et des textes fantastiques. Et la question de l'aliénation, bon, on ne va pas la reprendre là, mais il développe effectivement... Et là, Marx est très présent. Et au passage, il avait une admiration sans borne pour Michel Henry. Michel Henry qui fait un livre sur le jeune Marx. Il avait une admiration sans borne pour le jeune Marx. Et pour Michel Henry, dont je vous rappelle qu'il écrit c'est Jean-Louis Schlegel qui était l'éditeur, il en parlait mieux que moi, des livres sur Jésus, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense quand même que chez Ricoeur, il y a une évolution où la question de l'autorité et du pouvoir va devenir centrale. C'est le fameux texte, le paradoxe politique. Si vous prenez dans la revue Esprit avant, il va se balader en Chine, il fait des textes quand même très ambigus où l'économique explique tout ce qui peut se passer du point de vue politique. Dans le texte de 56, si je ne dis pas de bêtises, il y a le fait que pour lui, ce qu'il appelle, si je me souviens, l'analyse politique en termes de pouvoir doit toujours prendre le dessus sur l'analyse économique. Hein, et Marx, quand même, là-dessus, est piégé. Parce que justement, Marx, il fait l'impasse sur la question du pouvoir. Et je dis ça pour nous, c'est très important, parce que aujourd'hui, où l'économique organise tous les discours, les sciences sociales, et occulte le politique, le pouvoir, je pense que relire Ricoeur, parce que moi, c'est pour ça que j'insistais sur l'énigme de l'autorité. La question de l'autorité, c'est pas l'autorité de tel patron de multinationale. C'est la manière dont le pouvoir aujourd'hui se réorganise à travers les États, plus ou moins démocratiques, bien sûr. Et ça, Ricoeur avait quand même perçu cette question du politique comme centrale. Hein. Et quand je dis politique, c'est le pouvoir. Hein, c'est le pouvoir. C'est pas uniquement Hannah Arendt, le vivre ensemble.
Voilà. Autre question? Oui.
c'est ouvert, je ne sais pas trop parler dans les micros. Je me demandais si dans l'objection de précédente, il n'y avait pas quelque chose de plus qui était suggéré, à savoir que les philosophes ont interprété le monde, maintenant il faut le transformer. Ricoeur est soucieux de l'idée que le mal, il est à combattre et pas à interpréter d'une certaine façon. Est-ce que ce n'est pas cette piste-là, quelque chose un peu comme chez Camus, la peste, on n'y peut rien, mais on peut... Et qu'il y avait déjà ça chez Marx et qu'il y a aussi ça chez Ricoeur. Enfin voilà, c'était l'idée qui m'était venue. Mais...
Bon. La dernière, je ne certifie pas, mais l'une des dernières phrases du texte « Le mal a défié la philosophie et la théologie », c'est « Combattre le mal, c'est avoir renoncé à l'expliquer ». Mais je ne dirais pas à l'interpréter. Maintenant, sur les conditions effectives ou concrètes du combat contre le mal, là, bon, Ricoeur ne s'attarde pas, je dirais. Peut-être c'est pas dans sa tâche, d'ailleurs, de philosophe, parce que ce qui le préoccupe, lui, enfin, il me semble, c'est d'abord de désigner le mal comme ce qui doit être combattu et d'en tirer toutes les conclusions, disons, du point de vue, justement, de la foi, de la spéculation, de la théologie. Mais l'action constitue, évidemment... un des points absolument fondamentaux de la réplique au mal. Et d'ailleurs, dans Soi-même comme un autre, il donnera même une version de l'impératif catégorique à partir du mal. Hein. Bon, je le cite de mémoire, agis toujours de telle sorte que ta maxime s'oppose à l'existence du mal. Donc, bien sûr, il y a tout un enjeu qu'on n'a pas évoqué ici, enfin que j'ai pas évoqué ou qu'on n'a pas évoqué parce qu'il n'était peut-être pas central pour notre thème de la croyance, qui est celui de la liberté et des conditions pratiques de lutte contre le mal sur lesquelles la Marx, effectivement, aurait certainement, bon, sauf qu'il n'appellerait pas ça le mal, aurait beaucoup à nous dire.
Oui, enfin, d'un mot, là, pour Ricoeur, j'ai été l'éditeur du livre du texte à l'action, la riposte principale au mal, c'est le politique et c'est effectivement l'action, mais le texte étant lui-même une modalité de l'action. Donc c'est extrêmement important de saisir ça. Hein, ça c'est... Mais on retrouve toujours cette question. Et juste un mot par votre remarque qui est quasi anecdotique. Le premier prix, Paul Ricoeur, a été donné à un économiste, Ricoeur n'était plus là malheureusement, qui s'appelle André Orléans, qui a écrit un livre, L'Empire de la Valeur, qui est un livre tout à fait remarquable sur la valeur économique aujourd'hui. Et Orléans dit toujours... Aujourd'hui, il faut renverser la formule de Marx. On a trop interprété le monde, faut le transformer. Aujourd'hui, on a un monde en transformation permanente auquel on ne comprend pas grand-chose. On manque de capacité, enfin, je sais que Michael réagira à ce mot-là, mais d'interprétation. Moi, c'est mon point de vue. On ne sait pas comprendre le monde en cours, le monde de la mondialisation en cours. Hein. C'est là, on retrouve des questions, que ça relève de la technique, du pouvoir, de la puissance. Et je trouve que Orléans dit ça, c'est un économiste. Hein. On retrouve cette question de la puissance, vieille question heideggerienne, dans un tout autre contexte. C'est très important. Moi, je pense qu'on a un gros déficit intellectuel. C'est pour ça qu'on est là pour profiter de Ricoeur.
J'ajouterai peut-être un petit mot. À la fin de Temps et récits, Ricoeur insiste beaucoup sur le travail que les récits provoquent, c'est des variations imaginatives. Ça fait travailler l'imagination pour découvrir des possibles qu'on ne connaissait pas ou redécouvrir des possibles qu'on pensait complètement enfouis dans le monde. Et il dit, il faut bien distinguer cette possibilité des variations imaginatives de ce que la volonté va en faire ensuite. Ce que la volonté va en faire, il va le travailler plus tard à la fin de Soi-même comme un autre, avec les études 7, 8 et 9. Donc il y a l'action va passer par le détour de l'imagination de ce qu'on peut faire.
Oui, l'imagination, je crois, c'est fondamental. C'est Michael Fessel avec d'autres qui ont revalorisé. Enfin, moi, je sais que ma génération n'a pas assez valorisé l'imagination chez Ricoeur. Et là, relisant le beau livre d'entretien, La critique et la conviction, qui est assez travaillé. Hein. Il y a des tas de choses, justement, sur les deux énigmes. Il termine sur l'art. Et là, c'est fascinant. Et sa famille est un peu là, donc il réagira. Il parlait peu en privé hein, de l'artistique d'une certaine manière. On disait parce qu'il est protestant, mais c'est peut-être pas vrai. Mais là, il explique que l'art figuratif ne l'intéresse pas. J'étais tout à fait frappé. Et il fait, j'ai parlé du dodécaphonisme de Schoenberg, il ne s'intéresse qu'à l'art non figuratif, parce que comme vient de dire Guillaume, le problème c'est de reconfigurer, toujours reconfigurer. C'est pas de figurer. Voilà. Mais ça, on est dans les questions centrales pour aujourd'hui.
Alors,
je n'ose à peine parler parce que ça s'accroche plutôt plus
fort,
aux dernières réflexions, notamment d'Olivier, que à l'ensemble de votre propos. C'est justement cette question du mal ici et maintenant. Je suis frappé de ce que, dans notre actualité, le mal, c'est ce qui ne devrait pas exister. D'où le culte des victimes, qui est d'une chose extraordinaire, dont nous venons prendre une tranche, si j'ose dire, excessive. Enfin, celui qui a été tué au Mali en combattant n'a pas été honoré. Les victimes du Bataclan ont été honorées comme représentants de la France. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire quant à notre présent. Il y a une obsession du mal, mais une ignorance du bien qui y répond. Alors, où est passé le bien? Est toujours contingent, il est toujours relatif. Le mal, nous le connaissons, nous pouvons le tenir, si vous voulez, en imagination, du moins. Alors, je voudrais bien savoir et comprendre si Ricoeur nous permet d'éclairer cette situation qui, personnellement, m'angoisse. Et je poserai une autre question. On a parlé du prophétisme. Quelle est la pensée du prophétisme chez Ricoeur? Alors, je sais qu'il a écrit sur, comment il s'appelle là, son copain juif de Strasbourg, Néer. Mais qu'en est-il aussi de la clôture du prophétisme, je crois, chez Néer? Si vous voulez, ça, ce sont des questions. Est-ce que le prophétisme continue? Est-ce que notre obsession du mal, c'est parce qu'il n'y a pas de prophétisme pour répondre au mal? Nous avons un mal sans réponse au mal. Et ça, bon, bref, je m'arrête.
Qui veut?
Ah, vas-y, Jean.
Attends.
Je voudrais simplement prolonger ce que disait Paul Thibault, qui me semble effectivement tout à fait remarquable. Et d'une certaine manière, bon, les trois intervenants là, qui ont parlé ce matin vont éclairer un peu le problème. Parce qu'on bute, me semble-t-il, et c'est ce même problème chez Ricoeur, il y a une tension entre une affirmation originaire et une affirmation originaire qui n'est jamais ressaisissable, qui a toujours un écart permanent, il y a une espèce d'opacité, que ce soit effectivement le mal inscrutable, que ce soit effectivement le mythe, le récit, la métaphore, ou que ce soit l'écart entre l'origine et le commencement. Donc on ne peut jamais, à la fois je suis obligé effectivement de dire oui, et je ne peux jamais saisir le oui que par effectivement l'obscurité, qu'avec des médiations qui sont effectivement constamment interminables. Donc à la fois il faut bien effectivement qu'il y ait le oui, mais il y a constamment quelque chose qui m'empêche effectivement, et le oui ne se dévoile que dans une espèce comme ça de dilution et de labyrinthe, et ce qui explique aussi le travail constamment des médiations, du labyrinthique, du décalé, du métaphorique. À la fois je voudrais l'avoir, mais je peux jamais l'avoir. Et si je crois l'avoir directement, je suis dans l'idolâtrie la plus complète, il faut que je passe effectivement par l'obscurité. C'est la fameuse histoire de Saint Paul, voir, mais on voit tout en énigme, à l'envers, et ainsi de suite. Donc il me semble que Ricoeur est extrêmement, et tout ce qui a été dit ce matin, c'est ça, c'est les obstacles permanents, les écarts, l'opacité à saisir l'affirmation originaire, mais il y a une affirmation originaire. Voilà, il me semble que je prolongeais ce que disait Paul Thibault.
Bon, tu as répondu mieux que je ne pourrais le faire, bon, parce que Ricoeur, mais c'est pas du tout le seul, enfin il est quand même contemporain d'un mouvement typique de la deuxième partie du XXe siècle, qui philosophique, intellectuel, qui a renoncé à définir le mal par différence avec le bien, puisque ça présupposera justement d'avoir une connaissance du bien. Donc au fond, c'est cette idée d'une par rapport à laquelle un Badiou se sera beaucoup élevé, selon laquelle les politiques seraient toujours politiques du moindre mal, c'est-à-dire finalement d'une évolution, du refus d'indexer le politique sur une conception positive du bien, bon, métaphysique du bien. Alors, d'où effectivement, bon, quelques excès qu'on peut regretter sur la victimologie ou les sociétés victimaires. L'affirmation selon laquelle le mal se détacherait exclusivement ou fondamentalement d'une conception du bien, enfin, ne me déplaît pas, parce que d'une certaine manière, on voit bien que ce qui est dangereux aussi, c'est que sur la base du mal, bon, mettons le terrorisme, puisque c'est de ça dont on parle, les affirmations dogmatiques d'un bien, le camp du bien, le bien contre le mal, le bien qui va faire la guerre au nom des valeurs de qui le constituent, ou en France, disons, les valeurs de la République, cette abstraction bon, généralisée, ne me paraît pas non plus bon, préférable en soi, disons, à la culture victimaire. Dont, avec laquelle elle fait système d'ailleurs, parce que d'une certaine manière on est renvoyé d'une abstraction à l'autre, de celle de la souffrance à celle de la valeur, et bon, bah, la tâche à laquelle Ricoeur nous, nous invite aussi à sa manière, bon, qui n'est pas la seule évidemment, c'est d'essayer de comprendre le lien, Jean-Loup, c'est là que Jean-Loup, à mon avis, l'a très bien dit, entre bon, l'affirmation originaire qu'on ne peut pas ressaisir dans un savoir, et puis les blessures ou, les, ou la fragilité ou la finitude existentielle qui, elle, en revanche, peut faire l'objet d'un, de quantités de discours. Bon.
Quelque chose qui m'avait beaucoup frappé en, en lisant La symbolique du mal chez Ricoeur, c'est son insistance sur la, la, la posture du coupable. Pour toujours remontrer, pour réouvrir le coupable sur quelque chose qui est plus profond, qui le précède. Et en même temps, dans son texte, il y a des ouvertures, alors qui mériteraient, bon, c'est quelque chose que j'ai essayé de travailler aussi, sur la, la posture de la victime, avec la même question, c'est-à-dire de réouverture sur quelque chose qui la précède, qui la dépasse. Et là, il y aurait certainement des choses à retrouver. Sur la... Le bien. Alors, Ricoeur parle à la fin de son œuvre souvent du fond de bonté, comme quelque chose d'originaire qui, que par des médiations, on peut retrouver, sur lequel on peut fonder, et il le constitue toujours pour voir qu'est-ce qui résiste, à la trahison, qu'est-ce qui résiste à la destruction, qu'est-ce qui résiste aux soupçons, et petit à petit, il voit émerger ce fond de bonté avec les ressources dont il, enfin, qu'il exporte, par la nouveauté, le renouvellement du langage. Et il a une belle expression, c'est « retrouver les promesses inaccomplies du passé ». Ah, tout ce travail d'éveil.
Oui, justement, moi j'allais rebondir là-dessus, justement. Chez Ricoeur, il y a quand même une réflexion sur le nihilisme contemporain, Roy qui sera là, parle du nihilisme à propos des terroristes, qui est à reprendre comme tel. Hein. Je pense que la réflexion sur le nihilisme pourrait être beaucoup... Bon, on a fait un numéro, enfin, Michael a fait un numéro d'esprit il y a deux ans, donc on voit bien qu'il faudrait poursuivre la chose. Parce que si cette notion... elle compte... Bon, et alors après, moi, je suis entièrement d'accord, chez Ricoeur, c'était fondamental, c'est les promesses non tenues de l'histoire. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il dépassait le nihilisme. C'est-à-dire qu'il faut retravailler ce qui est déjà passé. C'est pas uniquement reconfigurer, c'est les deux. Hein, ça me paraît tout à fait décisif. Ça m'amène juste à un dernier point. Il était toujours en tension avec un de nos maîtres qui est Claude Lefort, un des grands du politique, qui lui parlait d'indétermination démocratique. Nos sociétés sont sans fondation. Ricoeur disait pas, il y a une fondation, le bien c'est le christianisme qui dit le bien, ou c'est l'islam qui dit le bien. On est dans une société où le bien ne peut plus être dit. On sait ce qu'est le juste, on ne sait plus. Le bien c'est, j'ai droit mais ça relève de ma sphère privée, etc. Mais lui disait toujours, il y a une multiplicité de fondations. Et là on revient au problème de l'antériorité de l'origine et du travail multiple de l'origine. Ça me paraît très très important. Moi, je trouve c'est très important, cette idée de multifondation. Et en plus, à la fin de sa vie, je me souviens très souvent, comme toute sa génération, comme nous d'ailleurs, il connaissait à peine l'islam et le Coran, il ajoutait toujours l'islam comme ça, en se disant, je ne sais pas de quoi je parle, mais on le met quand même. Hein. Voilà. Mais cette histoire de multifondation, parce que là, on retrouve la question de Paul Thibault sur le prophétisme. On a vu, vous avez peut-être vu là ou lu les prieurs Mordillat qui essaient justement de remettre le Coran dans une réflexion sur le prophétisme, à commencer par le lien très fort de Jésus dans le Coran. Hein. Là, on a peut-être aussi à retravailler les liens. Hein, les...
Bon, on va aller déjeuner. Donc, je crois qu'autour autour du centre Sèvres, il y a de quoi déjeuner. Mais donc je voulais juste dire un tout dernier mot pour terminer cette matinée, c'est que vous savez que Ricoeur, enfin tout le monde sait ici en tout cas, qu'il s'est beaucoup intéressé à la psychanalyse, que ça lui a même valu quelques difficultés, voire quelques avanies à certains moments de sa vie. Alors je vous signale que dans le dernier numéro d'Esprit de décembre, il y a un entretien très tardif de Paul avec un psychanalyste italien où il s'explique sur cette question, où il fait d'ailleurs, on peut dire ça, une certaine autocritique de ce qu'il a fait lui-même dans les années 60 de la psychanalyse. C'est dans le dernier numéro d'Esprit, si cette question vous intéresse particulièrement. Donc à tout à l'heure. Et à 14h, hein. C'est-à-dire 14h moins 5. Oui, alors, Yann Corbeil. Alors Yann Corbeil, pour il y a toujours des frais. La participation est gratuite, mais il y a toujours des frais, donc...
Pour la Fondation Ricoeur. Le temps de la consommation. Voilà, il y en a.